Alors on va commencer cette troisième soirée et on va continuer notre élaboration là, sur le thème de la parole et de son dire. On va donner d'abord la parole à Pascal Leray, qui est psychanalyste à Toulouse, membre de l'école et AME, et dont tu vas nous parler de l'inédit du dire. Voilà. Alors, oui, je commencerai d'abord par vous dire quelques mots sur ce à quoi m'a renvoyé l'intitulé donné à ce séminaire « La parole et son dire ». C'est aux avancées du dernier enseignement de Lacan quant à ce qui fait l'efficace de l'analyse, et ceci à partir d'au moins deux virages dans ce qui nous a transmis et sur lesquels je vais m'appuyer. D'abord, celui qui s'amorce en 1972 avec le texte de Letourdy, dans lequel Lacan fonde le dire dans sa portée existentielle. Dire dont il fait dépendre la parole dans son émission même. Et puis, un an après, celui du séminaire encore, qui vient bouleverser la conception de la parole qu'une analyse accueille, en la ramenant à la jouissance, à ce qui, dans le signifiant, est cause de jouissance. Mais cette nouvelle façon de considérer la parole dans le corps redéfinit l'inconscient lui-même. S'il reste ce savoir sans sujet, Lacan lui donne là une autre dimension. Et dans la leçon du 8 mai 1973 de ce séminaire, il dit « L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense, l'inconscient, c'est que l'être en parlant jouisse et j'ajoute, ne veut rien en savoir de plus. Cela veut dire ne rien savoir du tout. » Alors, à partir de là, essayons de dégager ce qui fait l'inédit du dire. Inédit en ce que le dire amène de nouveau dans la psychanalyse d'abord, c'est-à-dire cette fonction que lui donne Lacan de faire intervenir dans le discours la dimension de l'existence, une fonction d'acte qui lui est propre et qui porte sur la parole, dans ce qui fait la possibilité de sa production. Cette dimension d'acte du dire, portant sur l'existence, détermine aussi ce qui relève de l'intervention de l'analyste, dans la mesure où le dire pour Lacan et ce qui ne rentre pas dans la logique du déchiffrage et du sens des dits de la parole. Et puis, l'inédit du dire, c'est aussi, et surtout ce qui dans l'expérience, réussit à avoir effet de changement pour le sujet, jusqu'à cet effet capable de résoudre ce qui ne cesse pas de la demande de l'analysant en en resituant le dire par l'interprétation. Alors, dit d'une autre façon, le dire constitue dans l'expérience ce qui est apte à révéler, à partir de ses effets de coupure dans ce qui fait le sens de la parole, la part de jouissance qui s'y loge dans la parole. Cela touche alors à ce qui fait jouissance dans tel ou tel signifiant et ce peut-être, entre autres, ce qui se jouit dans un signifiant traumatique pour le sujet. Je dis cela parce que je développerai un exemple tout à l'heure où il est question effectivement d'un signifiant qui a une valeur traumatique pour le sujet. Et puis enfin, le dire est ce qui peut atteindre dans la parole à la lettre hors sens, qui fait la jouissance au pas du symptôme, ce qui éveille au savoir parler qui s'enracine dans la langue. À la fin d'une analyse, le dire qui aura agi tout au long de l'expérience pourra alors avoir cette dimension opérante de nouer entre elles, autrement, ces différentes modalités de jouissance du parler-être. Lacan a fait du dire, dans la toute dernière partie de son enseignement, le quart élément pouvant faire le nœud entre la jouissance, à écrire ici en deux mots, celle des symboles, hein, qui implique la consistance du symbolique et de l'imaginaire, avec la jouissance qui vient du réel hors sens du symptôme, d'où consiste l'inconscient réel. Mais je ne veux pas développer ici ces différentes modalités du dire, car ce qui nous intéresse, c'est le dire dans son rapport à la parole analysante. Mais situons le dire jusqu'à sa fonction de nuage dernière de l'analyse est un passage obligé, celui d'une perspective à laquelle ouvre l'analyse comme effectuation du dire. Une fois cela posé, centrons-nous donc d'abord sur la fonction du dire dans sa différence avec celle du déchiffrage. Ce qui nous permettra dans un deuxième temps d'aborder les effets inhérents au dire de l'interprétation sur le dire propre à l'analyse. Alors, la première chose permettant de définir la dimension du dire, c'est qu'elle ne recouvre pas, dans l'analyse, celle de la parole. Le dire n'est pas la parole, c'est pourquoi dans une analyse, comme Lacan a pu le dire en 1977, dans le séminaire « Le moment de conclure », dire est autre chose que parler. Disant cela, il situe le dire comme étant ce par quoi l'analyste tranche dans la parole analysante, le dire de l'interprétation étant du côté d'une coupure qui, d'équivoquer sur l'orthographe de ce qui se dit, a chance de faire sonner autre chose que ce qui est dit dans la parole. Lacan situe le dire, ici, en tant qu'il participe d'une écriture dans la parole, dimension sur laquelle il nous faudra revenir plus loin. Ce qui nous amène à devoir démontrer en quoi le dire, au-delà du sens que véhicule la parole, est ce qui opère dans l'expérience analytique en ramenant l'existence du réel de ce qui est dit dans le discours. Ou, pour le situer autrement, le dire n'est pas du registre des dits analysants et n'opère pas sur le versant symbolique de la parole. Il est déterminé par le réel. D'un côté, par le réel du non-rapport qui fait la castration pour le sujet, et de l'autre, par celui qui vient à y suppléer par une modalité de jouissance singulière. Ainsi, le dire concerne-t-il à la fois l'existence d'un sujet pris dans le langage, mais aussi le sujet en tant qu'il a un corps parlant ayant affaire à la jouissance, un corps donc de jouissance. Cette dimension existentielle du dire est celle dont relève l'acte analytique en tant que celui-ci doit viser le réel dans ce qui parle, soit un ordre d'existence, celui auquel la parlotte, comme Lacan l'appelle, parfois atteint, celui auquel la parlotte parfois atteint lorsque la production du dire arrive à attester de ce réel. Cela rejoint ce que Lacan nous dit dans l'étourdi, je le cite, « L'analyste doit au dire faire tenir la place du réel. » Alors, d'être mis à cette place dans le discours de l'analyste, dont l'analyste est en position d'agent, le dire est alors ce qui peut permettre à l'analysant de changer son rapport au réel de la jouissance, auquel il a affaire et ce dont il pâtit. La parole, quant à elle, reste toujours l'unique instrument dont use la pratique psychanalytique depuis Freud. Mais ce qui se dégage dans l'étourdi, c'est en quoi elle se retrouve couplée au dire, dans la mesure où non seulement elle en dépend dans ce qui fait sa production, mais aussi parce que l'incidence du dire dans l'analyse est ce qui finit par la révéler autre que véhiculant seulement le sens, c'est-à-dire dans ce qu'elle porte de réel, hein, et qui fait que ben, là où ça parle, ça jouit. Pour cela, il faut le discours de l'analyste, dont l'éthique est à même de donner avec le dire une autre portée à cette parole, autre que celle du sens de ce qui se dit. Et c'est ceci qui nous amène à situer d'abord l'écart qu'il y a entre dit et dire. Alors, si, comme a pu le dire Lacan, je le cite, « Nous ne pouvons traiter de l'inconscient qu'à partir du dit et du dit de l'analysant. » Il reste qu'il y a dans cet énoncé même de Lacan la présence d'un dire, son dire, comme il le soutient dans Encore. Ce dire en tant qu'il vient fonder ce fait, qu'il n'y a d'inconscient que du dit. Et si le dire existe par rapport au dit, il l'a de ne jamais faire rajout d'aucun dit à la proposition du dit dans la parole. Car ce qui lui est propre est d'exister par rapport à quelque dit que ce soit. Ainsi, le dire existe-t-il au dit de l'inconscient dont il est la condition. Mais sa fonction est aussi de faire exister le dit de l'inconscient qu'a découvert Freud. Mais pour porter le dit de l'inconscient à l'existence, l'acte du dire nécessite cet usage de la parole, il faut bien le dire unique, spécifique, tel que l'a inauguré Freud avec le dispositif de la cure. L'expérience analytique s'origine des Freud sur ce fait qu'il y a dans la parole, telle qu'elle s'adresse dans le transfert, avec à la clé la règle fondamentale, quelque chose d'autre que ce qu'elle annonce. Et si cela nous renvoie en premier lieu à l'inconscient tel que Freud l'a découvert en tant qu'il est à lire comme un message chiffré, à lire donc par le déchiffrage du signifiant dans la parole, c'est d'une toute autre dimension dont il s'agit avec le dire tel que Lacan le dégage dans Les Tourneaux 1972. Cette dimension est inhérente au fait que ce qui se dit de l'inconscient dans la parole analysante soit suspendu à cette fonction existentielle du dire, au fait même de dire. C'est ce qui fait que Lacan dit « n'importe quoi ne peut pas être dit, il faut le dire d'abord », avec l'équivoque du verbe « dire » et puis du fait de « le dire ». Alors cette prééminence du dire sur le dit permet de situer le dire comme étant dans l'analyse, ce qui permet à l'inconscient, savoir son sujet, de se frayer un passage dans la parole analysante. Le ressort du dire dans l'analyse est de porter à l'existence son savoir, ce qui diffère de la dimension de le déchiffrer, c'est-à-dire de chercher le sens de ce savoir. Par cet écart, le dire ne saurait jamais rentrer dans l'énoncé du dit qui lui se pose dans une analyse comme dite vérité. Il existe en dehors à ce ici que pourtant il conditionne. Ce que dit Lacan, pour qu'un dit soit vrai, encore faut-il qu'on nous dise que dire il y en est. Disant cela, Lacan situe logiquement le dire comme n'étant pas du registre de la vérité. À cette vérité, toujours non dite, passant par le dit analysé, le dire ne s'y couple que dit exister, dit Lacan, il existe à la vérité, à ce qui de la vérité n'assure dans l'analyse d'ailleurs aucune fin possible. Comme le dit Lacan en télévision, la dire toute la vérité est impossible, les mots y manquent, et c'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. La question qui se pose alors est de situer comment s'exerce la fonction analytique du dire dans son lien d'extériorité à la vérité. C'est par son dire que non, dit Lacan, à ce qui de la parole irait au sens, à ce sens auquel ramène toujours la dimension du vrai, que le dire prend sa fonction. Pensant cela, Lacan vient situer cette coupure du sens qu'est l'intervention de l'analyste en tant que dire qui suspend ce que le dit à le véritable, c'est toujours une autodie. Ce qui situe dans l'analyse ce dire, comme creusant la place du réel, que le midi de la vérité échoue à dire, et qu'elle indique pourtant, de par cette impossibilité qu'il y a à dire vrai du réel. Alors, il y a cependant dans l'étourdi un dire que Lacan fait passer par une proposition. C'est le dire relevant de la logique du non-rapport sexuel à partir duquel Lacan a écrit la fonction propositionnelle de la castration. Pour cela, Lacan part de ce qu'il reconnaît comme étant le dire de Freud. Se dire que les sociétés psychanalyse après Freud ont barré, avec un discours qui fait tomber aux oubliettes ce qui fait le tranchant de la découverte de Freud. Parce que d'avoir pris de source tous les livres de l'inconscient, de les avoir fait exister dans cette transmission qu'est son œuvre, le dire de Freud s'infère, comme le dit Lacan, en tant que témoin de l'impossible, celui du réel du sexe, sur lequel la vie sexuelle des êtres parlants vient à buter, inexorablement, et que Freud retrouve dans les analyses dites sans fin, en tant que roc sur lequel elles échouent. Pour Lacan, le dire de Freud est ce qui atteste de la castration en tant que celle-ci détermine logiquement ce qui fait rapport au sexe pour chacun. C'est ce que Lacan en extrait dans l'étourdi. Il n'y a pas de rapport sexuel, il n'implique pas qu'il n'y ait pas de rapport au sexe. C'est bien là ce que la castration démontre. Le dire de Freud, tel que Lacan l'extrait dans l'étourdi, c'est le dire du non-rapport, dont l'existence et ses conséquences pour le sujet doivent pouvoir être attestées par l'analyse accomplie, en tant que dire de l'analyse. Cela nous amène à considérer ce qui, à la fin de l'analyse, peut constituer le dire de l'analyse en tant qu'il s'infère des effets inédits du dire en expérience. C'est cela qui peut se transmettre au passeur dans le témoignage de la passe par le passant, en laissant entendre, en près au dédit de cette épreuve d'historisation de l'analyse, ce qui fait non-dire, le dire que Lacan a qualifié aussi de l'un qui se sait tout seul. Alors j'en viens maintenant à la question de l'incidence du dire, son efficace dans l'expérience, et cela concerne les effets réels de changement pour l'analysant, des effets qui peuvent permettre à l'analyse d'arriver à sa conclusion. D'abord, il y a à situer l'acte de dire à l'entrée de l'analyse, et il concerne le dire par lequel le sujet fait le pas de s'engager dans la tâche analysante en consentant à l'opération du transfert sur le sujet supposé savoir. En quoi répond l'acte de l'analyste qui supporte cette investiture du transfert? Dit autrement, le dire est bien là, d'emblée, dans ce qui fait la demande d'analyse, en tant qu'elle est portée par le désir du savoir, appelé à répondre pour l'analyser à l'énigme de la souffrance du symptôme. Seulement, dès que l'analyse s'engage, ce dire qui, du côté de l'analysant, est dire de la demande, est ce qui reste oublié dans la parole, couvert par les dits de l'analysant, oublié dans ce qui s'entend des effets des signifiants dans la parole. D'où la formule de Lacan, dont connu, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Se dire présent dans le qu'on dise, que Lacan a mis au subjonctif, là, fait ressortir la dimension d'imprédicable qui est la sienne, et situe bien cette dimension d'acte du dire comme étant contingente, avec du coup cette conséquence que là où le dire n'est pas, rien ne peut trouver à s'articuler en tant que dire de vérité dans la parole. À cet égard, le dernier film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, traduit bien, à sa façon, les effets qui se produisent au niveau de la parole dès lors que le dire est absent. Reprenant la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, Xavier Dolan met en scène le retour de Louis, âgé de 34 ans, qui revient sur ses pas, revoir le monde de sa famille après 12 ans d'absence inexpliquée, pour renoncer à la maladie qui l'affecte et dont il pense qu'il va mourir. Bien que très inquiet, il semble déterminé à leur parler de ce qui fait la raison de son retour. Mais ce n'est pas l'intention qui permet au dire de faire acte dans la parole. Le digne ne peut relever de l'intentionnel, il a lieu ou pas, et son existence échappe à tout vouloir dire du sujet. En effet, la tentative de Louis de prendre la parole sur ce qui fait sa raison d'être là viendra échouer en se brisant dans un silence écrasant. Ce qui frappe par ailleurs dans ce film, c'est le contraste entre le silence oppressé de Louis et la prolixité des autres personnages, aboutissant à tour de rôle à une question posée, pas toujours avec délicatesse, à Louis sur ce qu'il fait revenir. Et si celui-ci recule, figé, prisonnier de cette panne devant la prise de parole, cela nous montre bien que pour pouvoir parler de ce qui lui tient à cœur, eh bien, il faudrait ce qui ici lui fait défaut, le secours du dire, l'acte du dire, apte à engendrer la parole, avec les effets inattendus qu'elle pourrait provoquer. Invité à répondre sur ce qui fait la visée de son film, Xavier Dolan répond. C'est un film sur l'incapacité tragique à communiquer. Il n'y a pas de dialogue, redit Lacan. Celle qui frappe lui. Et puis, concernant les autres personnages, il nous dit, enfin, Xavier Dolan, c'est un film de la parole maladroite. Lui, il y a des mots, finalement pour taire ce qui compte le plus. Et il ajoute, ce que les mots disent ont une importance secondaire. Ce qui prévaut, c'est ce qui est sous les mots ou entre les mots. Alors on peut entendre dans cette réponse que fait Xavier Dolan une tentative de localiser d'où viennent ces impossibilités de la parole, en tant qu'elle ne vise pas seulement celui qui se tait. Là où les mots affluent, c'est peut-être pour mieux taire ce qu'il y aurait à dire. Alors le dit échoue à faire de la parole autre chose que ce qui attise, et porte à l'extrême le malentendu du sens inhérent à la parole, et ceci jusqu'à la violence, avec ses effets délétères sur les liens entre les différents personnages du film. Ce que l'analyse permet, c'est de cibler, non pas le sens donc de la parole, mais ce pourquoi on parle de telle ou telle chose, de telle ou telle façon, avec tel ou tel affect. Et cela renvoie précisément à ce que ne dit pas la parole et qui, par en dessous des mots, est ce qui se jouit dans le monde, au-delà des dits que celle-ci fait entendre. Ce qui reste oublié pour Lacan, c'est le dire de la demande propre à l'analysant, celle qui, dans la répétition de ses tours, présentifie dans la parole la dimension d'impulsion qu'il anime et qui cherche à s'y satisfaire. Ce que vient à élaborer Lacan étourdi, c'est ce qui, dans l'analyse, peut rappeler à l'existence ce dire oublié de la demande, à partir de quoi la répétition infinie des tours de celle-ci peut trouver à se résoudre. Mais comment une analyse y parvient-elle? Comment, finalement, arrive-t-elle à arrêter ce qui fait cette répétition et faire en sorte que puisse se fermer ce que Lacan a appelé le tour en soi de la demande. Alors, je n'ai pas à vous faire la démonstration topologique, je ne vais pas reprendre ça, mais juste, lorsqu'une interprétation réussit à toucher ce dire de la demande, elle y parvient en atteignant à ce qui se joue dans la parole, dans ses dits, donc. Ce qui veut dire qu'elle restitue le dire oublié du condise en tant que c'est celui de l'objet, en tant que réel. C'est parce que le dire de l'interprétation est tourmenté par le réel, c'est parce qu'il porte lui sur la cause du désir, cause réelle, cause qu'il révèle en tant qu'objet A, qu'il peut faire chuter la consistance qu'avait cet objet pour le sujet dans son fantasme. Cette opération du dire et celle qui participe dans l'étourdi, à ce qui amène à la fin de l'analyse, et elle se réfère à cette époque à ce que Lacan avait déjà conceptualisé en 1967 comme la passe par l'objet, faisant advenir la division du sujet, le S barré. Bon, alors, ce livre d'interprétation, s'il restitue ce dire de la demande que le déchiffrage de la parole ne peut que rater, car il concerne, lui, pardon, excuse-moi, ce dire de l'interprétation restitue ce réel de dire de la demande que le déchiffrage de la parole ne peut que rater, car il concerne, hein, ce dire de l'interprétation, la jouissance prise dans la demande. C'est ce que reprend Lacan dans sa postface d'ailleurs du séminaire 11, dont il a été question dans, journée, enfin, dans la dernière partie de la journée à Paris. Ce passage, dans le séminaire 11, Lacan insiste sur ce fait que c'est elle, la demande, qui est à interpréter en tant que dire, et non pas la parole dans ce qu'elle dit. Alors, je voudrais, pour donner un exemple relatif à l'expérience de cette opération du dire logé, du dire sur la jouissance logée dans la demande, m'appuyer sur le témoignage d'une analyste ayant fait son analyse avec Lacan. Il s'agit du témoignage de Suzanne O'Neill, recueilli dans une interview qu'elle a accordée à Eugenia Varela Navarro au sujet de son analyse avec Lacan. Alors, dans ce témoignage, elle relate non pas ce qui a pu faire fin d'analyse, mais un moment crucial de son analyse, et restitue ce qui a eu, alors pour elle, un effet d'interprétation inoubliable. Cet exemple a aussi cet intérêt de ramener la dimension de l'équivoque dont use le dire de l'interprétation et dont Lacan rappelle les modalités à la fin de la tournée. C'est après, donc, qui sont l'orthographe et la grammaire. Bon. C'est après qu'elle ait pu saisir, donc, que l'analyse ne lui arracherait pas la douleur qui était liée chez elle à son vécu de la guerre en Allemagne pendant son enfance. Elle est née en 38, donc elle était vraiment petite quand elle a traversé cette expérience. Elle ne lui arracherait pas donc cette douleur qui était liée à son vécu de la guerre en Allemagne pendant son enfance et qu'elle devait faire avec. Qu'arrive cette séance où elle rapporte à Lacan ce qui serait pas douloureusement au quotidien pour elle. Elle est réveillée tout le matin à 5h, et puis elle associe heure à laquelle la Gestapo était venue chercher les Juifs dans la maison. Et là, elle relate qu'à ces mots, Lacan se lève d'un bond, vient vers elle et lui fait une caresse sur la joue en ponctuant ainsi la séance. Elle explique qu'elle est d'abord sidérée par ce geste, qu'elle ne peut relier à rien, et que ce n'est que dans l'après-coup, en parlant avec une amie, qu'elle peut y entendre « geste à peau ». Peau, la peau. Et en parlant, oui, qu'elle peut y entendre « geste à peau » équivoquant avec « gestapo ». En fin de compte, avec ce geste, qui a fait quoi? Qui a fait signe? C'est introduit pour elle une équivoque homophonique dans le signifiant gestapo qui vire pour l'analysante en gestapo. Il m'apparaît alors, je la cite, que par ce geste sur mon corps, dit-elle, il a traduit par le corps le mot allemand en français. Donc on voit quand même que aussi il y a cette particularité que cet équivoque passe de la langue, d'un mot de la langue allemande à un mot en français, enfin une expression en français. Ce geste précise-t-elle a profondément fait basculer quelque chose dans sa vie et a compté par la suite dans son devenir analyste. Car c'est l'hostilité envers la langue allemande, sa langue maternelle, qui est tombée. Cette langue qu'elle ne se permettait plus de parler, parce qu'elle est partie d'Allemagne, elle s'est exilée, elle est venue vivre en France, elle ne se permettait plus de parler, donc c'était pour elle la langue des nazis, et bien elle se l'autorise à nouveau, en pouvant dès lors en faire jouer les ressources dans son analyse, mais aussi en traduisant Freud ou d'autres auteurs allemands, des poètes comme Goethe. Alors, à quoi ce geste a-t-il touché pour transformer ce qu'elle appelle sa douleur en l'habitant à une autre place, vivable non plus délétère? Nous avancerons que c'est en tant qu'il est en dire, faisant signe d'un réel que ce geste a eu cette portée. D'être acte qui ne se pense pas, seulement dicté par l'éthique, il est ce par quoi l'analyste en prend le risque, lié à son effet imprévisible, sans garantie, à la merci de ce que le sujet va en faire. C'est bien dans ces suites qu'il s'avère comme acte, ayant touché un réel, instaurant, d'après ce qu'on dit, le sujet, un avant et un après dans l'analyse. Ce geste est un dire sans parole. Et il a répondu à l'urgence qu'il y avait à interpréter la demande de l'analysante. Il l'a fait en faisant signe d'un écart entre le dit de son récit, de son histoire, et le dire ramenant la jouissance mortifère que recelait ce signifiant traumatique auquel était assujetti le sujet, lequel avait laissé une marque par la résonance contingente qu'il avait eue au niveau du corps pour le sujet. Et c'est bien cette marque, en tant qu'elle implique la langue singulière au sujet, qui a pu être touchée par l'équivoque du geste, qu'introduit le geste. Cela éclaire la portée de ce passage de l'étourdi, où Lacan dit que ce dire, soutenu par l'analyste, qu'il qualifie d'apophantique, en proposition, de quelque chose en tout cas qui fait signe, ne procède, je cite Lacan, que du fait que l'inconscient, d'être structuré comme un langage, c'est-à-dire la langue qu'il habite, est assujetti à l'équivoque dont chacune se distingue dans l'analyse. Finalement, le dire que constitue ce geste, s'il ramène de l'oubli le dire de la demande qui insistait dans la répétition, c'est d'y avoir atteint avec l'équivoque que recelait la langue propre à l'inconscient de l'analysante. Équivoque apte à faire bouger, à dissoudre le sens joui fixé dans le signifiant de ce qui se répétait dans le transfert. Mais il y a, me semble-t-il, une autre condition à l'effet de se dire en tant qu'acte. Et elle est, elle aussi, contingente. Elle est liée au fait que l'analysante ait été disposée à se laisser attendre par l'équivocité supportée par ce geste et atteignant au corps ce que je traduirai ici comme une certaine disposition au réel qui vient du rapport du sujet à l'inconscient en tant qu'il est jouissance. Ce qui n'est pas sans rappeler ce que dit Lacan un peu plus tard dans le séminaire du Saint-Thon, à savoir que ce soutenant de l'équivoque, le dire, pour qu'il résonne, pour qu'il consonne, il faut que le corps y soit sensible. Ce à quoi a touché le dire de l'analyste, ici, c'est à la résonance du corps en tant que corps de jouissance. Ce qui doit orienter le dire, dont relève l'acte analytique, concerne ce qui, dans les paroles de l'analysant, touche au corps vivant, en tant que corps marqué par le mot de la langue. Et c'est là l'inconscient et ce savoir qui se jouit, et qui, comme tel, échappe à l'être parlant. Il lui échappe, nous dit Lacan, encore en ceci, que les effets de la langue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de tout ce que l'être parlant est susceptible d'énoncer. Et cela vaut d'autant plus pour cet autre versant de la jouissance qui est celle hors sens du symptôme dont je ne parlerai pas ce soir. Pour conclure, je soulèverai une question qui mérite d'être liée à partir de l'exemple donné par Stéphane en tant qu'elle vaut, me semble-t-il, pour toute analyse. C'est celle de l'écrit, comme effet du dire dans la parole analysante. Il y a bien en effet quelque chose qui vient s'écrire, qui cesse de ne pas s'écrire, à partir de la marque, lorsque l'équivoque du dire touche à ce qui est un effet de la langue sur le corps. Cet effet du dire est réel, d'atteindre quelque-un de sens joui, et aussi de libérer un désir entravé. L'écrit que le dire fait advenir dans la parole, n'est-il pas alors de l'ordre de ce qui vient à s'écrire et qui, comme tel, libère le sujet de ce qui le maintenait captif, du poids de la jouissance portée par certains signifiants, qui, comme tel, le déterminait autrement que comme ce qui faisait son histoire. Le dire minimaliste fait alors bouger ce qui oriente la vie d'un sujet. En ce sens, il ouvre à ce qui fait événement de dire. Et il permet à ce que l'analyse puisse continuer à s'écrire ses effets de dire. Ayant le pouvoir de dégager le « on » qui alors cesse de ne pas s'écrire, il porte à l'existence une rapport, c'est-à-dire l'impossible du « deux » à faire « l'un » du rapport. Cela ne va pas sans entamer la jouissance prise au déchiffrage qui, lui, ne cesse de recouvrir le surgissement du un en renvoyant toujours au signifiant qui le porte dans l'enchaînement du deux de la chaîne signifiante. Mais seule la pince de fin d'analyse est ce qui est à même de faire chuter la jouissance de ce déchiffrage corrélé au mirage de la vérité. Lorsque le yaglin de l'inconscient, dans sa réitération, aura enfin produit le dire de l'un, dont je parlais tout à l'heure, de cet homme qui se sait tout seul. L'analysant passant à l'analyste pourra soutenir alors ce fait de prendre à sa charge pour d'autres cette réponse qu'est le dire existentiel dans une analyse.